Chapitre 15. Le mois suivant, sous prétexte de révisions intensives, Linus reste souvent dormir chez Shem. Là, personne ne les dérange. Monsieur et Madame Nogoro, qui travaillent pour des organisations de santé en lien avec l'étranger, passent leur vie entre deux avions. Les garçons restent branchés sur le serveur de Monsieur Zanz. Ils apprennent comment pénétrer dans les bases de données en temps réel, comment changer les noms, les codes, les numéros de dossier. Shem se débrouille très bien, mais en cas de problème, un membre du réseau de Monsieur Zanz, un transfuge de sphère 1, peut prendre la direction des opérations. Yosh et Linus ont convenu de ne pas se revoir avant que tout soit prêt. Ils s'écrivent mais évitent de faire allusion à leur projet. Lorsque Linus est chez lui, il a du mal à cacher ses états d'âme. Ses parents lui reprochent sa mauvaise humeur et ses colères subites à tout propos. Les disputes avec Mieg deviennent insupportables. Tant mieux, pense Linus. Comme ça, je ne regretterai pas de partir. Et une grosse boule d'angoisse lui escalade le ventre pour lui bloquer la gorge. De temps en temps, il se demande ce qui lui a pris. Il se réveille en pleine nuit, épouvanté par les cauchemars. D'autres fois, elle pleure. Il voudrait se précipiter dans les bras de sa mère et tout lui raconter. Mais c'est impossible. S'il craquait, il risquerait de dénoncer toute l'organisation de Zanz et mettre des dizaines de personnes en danger. Les transfuges seraient sans doute envoyés en sphère 3 ou même directement en prison. Un soir, alors que Linus est plongé dans son bain, de la mousse jusqu'aux oreilles, Mieg fait irruption dans la salle de bain. Sans un mot, elle vient s'asseoir au bord de la baignoire, les bras croisés. Linus ne bouge pas, ne la regarde pas. « Ça va ?» lance-t-elle soudain. Qu'est-ce que ça signifie Je ne te demande pas de confidence, je voudrais simplement que tu me rassures. » « À propos de quoi ?»« Ben, je sais pas, moi, tu es tellement irritable. J'ai entendu une discussion entre papa et maman. Ils s'inquiètent de te voir comme ça. »« De me voir comment ?»« Comme ça ?» s'énerve Mieg, en se relevant d'un bond. « Tu fais celui qui ne comprend pas, mais tu vois très bien ce que je veux dire. »« Non. » Mieg fait le tour de la salle de bain en poussant des soupirs. Brusquement, elle s'arrête et se plante face au miroir. « Tu ne trouves pas que j'ai grossi » demande-t-elle. « Je ne sais pas. J'ai pris 5 kilos cet hiver. Je deviens énorme et puis j'ai des boutons et... » Elle marque un temps d'hésitation. « Et j'en ai marre » murmure-t-elle. Linus s'assied dans la mousse et la regarde. « Je ne te trouve pas grosse » dit-il. Sans lâcher son reflet du regard, Mieg dit tout à coup. « Tu n'as pas envie de réussir ton examen, n'est-ce pas ?» Linus sent son cœur bondir dans sa poitrine. Il étouffe un cri de protestation et il attend la suite. « J'ai bien compris, » continue Mieg. « Tu n'arrêtes pas de critiquer le système. Tu penses peut-être que tu n'as pas ta place en sphère 1, mais tu te trompes. » Linus décide de jouer le naïf. « Qu'est-ce qui te fait croire ça ?» Mieg revient vers la baignoire. « Juste une impression, » dit-elle. « Mais je suppose que tu n'as pas envie de m'en parler. » »« Je n'ai rien à dire. » Avant de quitter la salle de bain, Mieg passe ses doigts dans ses cheveux. Ses boucles brunes retombent sur ses yeux. « Shem et toi, vous êtes en train de faire une belle connerie, » lâche-t-elle. Puis elle tourne le dos à son frère et s'en va. Linus reste tétanisé. Comment Mieg a-t-elle deviné? Que sait-elle précisément? Il aurait dû se méfier. Avec sa manie de fouiller partout, Mieg est peut-être allée sur le FME et elle a appris quelque chose. Linus sort de son bain, se sèche à toute vitesse et se rhabille. Dans sa tête, les questions tourbillonnent, angoissantes, sans réponse. C'est la tempête! Si le réseau informatique n'est pas sûr, le téléphone l'est encore moins. Il n'y a qu'une solution, se déplacer. Il faut avertir Chem, Yosh et Monsieur Zanz dès ce soir. Linus retourne dans sa chambre, enfile ses chaussures et descend dans l'entrée sur la pointe des pieds. Ses parents vont être là d'un instant à l'autre. Il doit quitter la maison immédiatement. Il s'assure que Mieg ne l'a pas entendu. Elle est dans sa chambre en train de travailler sans doute. La voix est libre. Il griffonne un mot sur un bout de papier. Je suis chez Chem, je rentre tard. Ne vous en faites pas pour moi. Après avoir placé le mot en évidence, il ouvre la porte. La veilleuse de l'alarme passe au rouge, pourvu que Mieg n'y prenne pas attention. Linus se glisse dehors et traverse l'allée en silence. Le portail grince un peu quand il l'ouvre. Le cœur battant, Linus se met à courir dans la rue vers la gare. Dans le hall, la foule est moins compacte qu'à l'heure de pointe. Linus se faufile entre les gens, craignant de croiser quelqu'un qui le connaisse. Une fois sur le quai, il reprend son souffle. Par chance, une rame arrive tout de suite. Linus s'installe en bas et pousse un soupir de soulagement quand les portes se ferment. 20 minutes plus tard, le train s'arrête à la première station. Linus doit descendre à la suivante, mais la voix du contrôleur se met à grésiller dans le haut-parleur. « Mesdames et messieurs, une manifestation a lieu actuellement en gare. Notre rame est bloquée par les manifestants. Nous vous demandons de descendre et de rejoindre les sorties ou les correspondances. » Linus se prend la tête dans les mains tandis que les voyageurs descendent en protestant. Il est déjà 20h45. Quand il se retrouve à son tour sur le quai, il aperçoit un rassemblement à l'avant du convoi. Une cinquantaine d'hommes et de femmes entravent la circulation. Ils brandissent des banderoles sur lesquelles on peut lire « Ouvriers, employés de la ZI en grève ». « Non au travail abrutissant !» Linus se souvient des propos de Monsieur Zanz. Parmi ces grévistes, il y a probablement des transfuges. Sans réfléchir, elle s'approche du groupe. Certains manifestants crient, certains chantent, d'autres injurient les agents de la transurbaine qui tentent de les disperser. Au milieu de la bousculade, Linus reconnaît Monsieur Zanz en personne. « Monsieur Zanz » appelle-t-il en agitant les bras. La confusion est telle que personne ne l'entend. Il se glisse dans le groupe en jouant des coudes. Monsieur Zanz est là, devant lui, occupé à lancer des ordres. Linus le tire par la manche. Monsieur Zanz se retourne, mécontent. Monsieur Zanz, excusez-moi de vous déranger, je... Qu'est-ce que tu fais là? Je dois vous parler, il se passe des choses. Un mouvement de foule emporte Zanz plus loin, au bord de la voie. Linus est pris en sandwich entre un grand type qui hurle des injures et une femme rougeaude qui tient une banderole. Ces gens ont l'air très en colère. En se dressant sur la pointe des pieds, Linus aperçoit Monsieur Zanz qui tire le conducteur du train de sa cabine. Les agents de la transurbaine sont refoulés sans ménagement. Linus tente de se rapprocher, mais au moment où il rejoint enfin Monsieur Zanz, on entend une cavalcade, des coups de sifflet et des cris. Monsieur Zanz se fiche sur place. « On se replie !» hurle-t-il. « On laisse tomber, ils vont nous coincer !» Le groupe des manifestants se disloque soudain dans la panique. Linus, affolé, s'accroche comme il peut à Monsieur Zanz. « T'es encore là ?» lui crie celui-ci. « T'es complètement inconscient !» Il l'attrape par la main et l'entraîne dans sa fuite. Linus court avec les autres dans les couloirs. Derrière eux, la police souterraine est lancée. Des cris résonnent, des voyageurs se font bousculer. Linus, estomac en vrille, serre la main de Monsieur Zanz de toutes ses forces. Le groupe se disperse au gré des couloirs. « Grouille-toi !» sauf Monsieur Zanz en poussant Linus dans un escalier de service interdit au public. « Mais on n'a pas le droit d'aller par là !» sursaute Linus. « Ne discute pas !» ordonne Monsieur Zanz. Il referme la porte derrière eux. À l'intérieur, il fait sombre. Seules quelques veilleuses éclairent faiblement les marches qui descendent. Monsieur Zanz entraîne Linus. L'escalier s'enfonce dans les entrailles de la station. À bout de souffle, ils parviennent devant une autre porte. Elle est bloquée. Sans rien dire, Monsieur Zanz sort un passe de la poche de son blouson et ouvre la porte. Il traverse maintenant un long corridor de béton. Une odeur écœurante de pourriture et d'essence saisit Linus à la gorge. Il remonte son écharpe sur son nez. Monsieur Zanz marche devant, tendu, silencieux. Il passe ainsi plusieurs portes grâce à la clé, avant de déboucher dans une sorte d'entrepôt immense aux parois couvertes de tuyaux. Au fond, un bureau vitré est éclairé. « Ici, nous sommes en sécurité, » dit Monsieur Zanz. « C'est l'entrepôt d'un ancien chantier qui date de la construction de la zone industrielle, une des planques de mon organisation. Tu tiendras ta langue, évidemment. » Linus transpire à grosses gouttes. Une affreuse nausée lui soulève l'estomac. Il s'appuie soudain contre la paroi et se met à vomir.